Le journal présenté par Adrien Toffolet.
Bonjour. Jour J pour les législatives en Allemagne, scrutin capital pour Angela Merkel qui semble bien partie pour l'emporter et obtenir un quatrième mandat de suite, et pour l'extrême droite aussi qui pourrait intégrer le Bundestag, reportage et analyse dans ce journal. Dans l'actualité également, l'escalade des menaces et provocations entre Washington et Pyongyang avec le survol hier soir d'un avion militaire américain au large de la Corée du Nord. Situation tendue aussi en Espagne où le gouvernement met de plus en plus de bâtons dans les roues de l'exécutif catalan et le prive de sa police régionale à une semaine du scrutin sur l'indépendance. Et puis en France, les élections sénatoriales, c'est aujourd'hui enjeu important pour Emmanuel Macron, même si son parti n'est pas majoritaire dans la Haute Assemblée. Les électeurs allemands se rendent aux urnes depuis ce matin, scrutin majeur des législatives, comme je l'ai dit précédemment, et pourtant, très peu de suspense aujourd'hui. La CDU de la chancelière est donnée largement favorite dans les sondages, Angela Merkel qui pourrait donc ainsi obtenir à l'issue du vote un quatrième mandat consécutif. Face à elle, la gauche de Martin Schulz, trop faible, et l'extrême droite qui a repris du poil de la bête ces dernières années. Julie Pietri est allée prendre la température ce matin dans un bureau de vote dans l'est de Berlin.
Ce bureau de vote, c'est une école transformée. Chaises et tables ont été déplacées. Et ici, ce n'est pas comme en France où on a plusieurs bulletins et où on en choisit un que l'on glisse dans une enveloppe. En Allemagne, les électeurs ont une liste en main, un seul papier gris et deux cases à cocher. Un vote pour un candidat local et un autre pour un parti au niveau fédéral.
Bonjour, je m'appelle André. J'ai 36 ans, je vis à Berlin et je viens de voter pour les élections fédérales.
Est-ce que vous pouvez dire pour qui vous avez voté ?
Au niveau fédéral, j'ai donné ma voix à la CDU parce que je pense qu'en Allemagne, on se porte très bien économiquement. Les entreprises sont puissantes et ont beaucoup de succès. En anglais, on dit « on ne change pas une équipe qui gagne ».
Est-ce que vous avez peur de l'AFD ?
J'ai peur qu'ils deviennent trop puissants, mais je ne pense pas qu'ils pourraient constituer une menace.
L'AFD, c'est ce parti d'extrême droite, anti-immigration, anti-islam, anti-Europe, qui devrait, si les sondages se confirment, faire son entrée au Parlement, une première pour un parti xénophobe en Allemagne depuis 1945.
Et l'extrême droite, vous le disiez Julie, justement au centre des préoccupations des observateurs, crédité de 10 à 15% dans les sondages. Alternative pour l'Allemagne est en passe d'entrée donc au Bundestag, un parti qui pourrait modifier considérablement les positionnements politiques dans le pays. C'est en tout cas l'avis de la politologue Daniela Schwarzer.
L'arrivée d'un parti de droite extrême est certainement un changement politique important pour l'Allemagne. Ça va être difficile pour les partis modérés de se positionner parce qu'ils n'ont pas l'habitude de défendre des positions qui ont été assumées comme garanties, notamment une orientation très pro-européenne, une ouverture à l'international, aussi une politique d'immigration assez libérale. Et donc, après les élections, sûrement, ces positions politiques doivent être défendues avec beaucoup plus de ferveur et avec beaucoup plus d'arguments pour démontrer aux électeurs allemands qu'il y a une très très bonne raison pour continuer dans cette voie de stratégie européenne, internationale et aussi de garder l'Allemagne ouverte au monde.
Analyse recueillie par Cyril Sauvageau. Entre la Corée du Nord et les États-Unis, les tensions et les menaces prennent des proportions toujours plus inquiétantes chaque jour. Après les tirs de missiles et les essais nucléaires à répétition, après les menaces et les insultes des deux côtés, des avions militaires américains ont survolé la mer du Japon hier soir au large des côtes nord-coréennes. Ça n'était jamais arrivé depuis la partition de la Corée. Il s'agit d'un message clair adressé à Pyongyang, dixit le Pentagone. Les États-Unis disposent de nombreuses options militaires et prennent la menace nord-coréenne très au sérieux. À New York, les précisions de Marco Voltaire.
Notre supériorité dans les airs est sans appel, avait fièrement déclaré Donald Trump en posant devant un impressionnant bombardier capable de lâcher des bombes nucléaires. C'était il y a à peine une semaine. De la puissance des images, on est donc passé à la démonstration de force avec ce vol de bombardiers B-1B escorté par des chasseurs F-15 qui ont décollé des bases militaires de Guam et du Japon. Des avions avaient déjà survolé la Corée du Sud, c'était fin juillet, en réponse à un tir de missile nord-coréen. Mais cette fois, comme l'explique le Pentagone, jamais des bombardiers n'étaient allés d'aller aussi loin, au-delà de la zone démilitarisée entre les deux Corées. Pendant ce temps, la surenchère verbale s'est poursuivie à New York. Dans son intervention devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a affirmé que le président américain avait commis une faute irréversible en surnommant Kim Jong-un de Rocketman. Avant de poursuivre dans le même registre, Donald Trump est une personne dérangée, un mégalomane et un gangster.
Dans une semaine maintenant, la Catalogne doit en théorie se prononcer sur son indépendance, en théorie seulement, car dans la pratique, cela s'annonce de plus en plus compliqué d'organiser ce référendum d'autodétermination. Madrid resserre de plus en plus l'étau à grand renfort de forces de l'ordre, menace, perquisitionne, arrête et au final tente tant qu'il peut de mettre des bâtons dans les roues de l'exécutif régional pour que le scrutin n'ait pas lieu. Dernier coup en date, le ministère de l'Intérieur espagnol a annoncé hier soir sa volonté de coordonner les forces de police catalanes, les Mossos d'Esquadra, qui dépendent habituellement de l'autorité régionale, le temps que la crise politique passe. Une initiative qui ne passe pas, en tout cas, en Catalogne. À Barcelone, la correspondance de Bertrand Galichet.
La télévision catalane TV3 y a consacré l'essentiel de son journal hier soir. Et à Barcelone, nombre de Catalans s'indignent et dénoncent une provocation. José Luis y voit une nouvelle attaque du pouvoir central.
Ils ont commencé par l'économie, les finances. Et là, un des symboles clés de la Catalogne, qui est sa police. C'est vrai qu'après les attentats d'il y a un mois, les gens étaient très fiers de sa police. Mais là, maintenant, on commence à voir dans les rues des gens qui commencent à défier l'autorité de la police catalane parce qu'ils doivent se plier aux ordres du gouvernement central.
Une police catalane à la croisée des chemins et dont le comportement dans les prochains jours sera scruté à la loupe. Ramon, un informaticien de 35 ans, ne lui fait guère confiance. La police catalane, ces dernières années, lors des mouvements sociaux, a choisi la répression, comme la police espagnole. Le chef du département catalan de l'Intérieur prépare une riposte juridique. Il juge inacceptable la volonté de Madrid de prendre le contrôle des Mossos d'Esquadra, la police catalane, pour empêcher le référendum du 1er octobre.
En France, l'actualité politique est dominée aujourd'hui par les élections sénatoriales. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin et sont appelés à se prononcer. Les grands électeurs, 76 000 élus locaux, conseillers municipaux, départementaux et régionaux et quelques parlementaires pour renouveler la moitié des sénateurs. Les Républicains sont favoris, ce qui signifie que pour la première fois des nombreuses élections de l'année, le parti du président ne fera pas de raz-de-marée. Mais pour Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l'université de Paris et Panthéon-Sorbonne, même s'il ne dispose pas d'une majorité estampillée La République en marche, Emmanuel Macron pourrait profiter de ces sénatoriales pour asseoir sa position politique.
L'enjeu est important pour le président de la République, non pas pour la constitution d'un groupe en marche, il n'y a pas de suspense, c'est la droite qui va gagner les élections sénatoriales ce soir. Ce qui est en jeu, en revanche, c'est la fluidité des groupes politiques qui vont se constituer au Sénat. La grande différence entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est qu'à l'Assemblée nationale, les frontières entre majorité et opposition sont relativement strictes et permanentes, alors qu'au Sénat, les frontières sont poreuses. Il y a entre les groupes des majorités d'idées, comme aurait dit autrefois Edgar Faure, c'est-à-dire de la fluidité entre les différents groupes. On peut imaginer que même si des groupes sont constitués, il puisse y avoir des majorités différentes selon les textes, ce qui n'existe pas à l'Assemblée nationale. Et l'enjeu pour Emmanuel Macron est que cette fluidité puisse lui permettre d'atteindre la majorité des 3/5 pour la révision constitutionnelle.
Des propos recueillis par Marc Ventoux. Au lendemain de la mobilisation réussie de Jean-Luc Mélenchon contre la politique d'Emmanuel Macron, quelques réactions de ses adversaires se font entendre ce midi. Pour le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, les propos sur les nazis tenus la veille par le leader de la France insoumise sont une faute politique et morale. Ce dernier avait affirmé que c'est la rue qui a abattu les rois, les nazis, le plan Juppé et le CPE. Il se défend ce matin dans son blog d'avoir comparé le gouvernement aux nazis. Et puis, la réaction du patron de Bercy, Bruno Le Maire, sur le fond cette fois-ci, qui s'adresse dans une interview au JDD à tous ceux qui attisent la colère. Selon ses mots, le projet de colère perpétuelle de Jean-Luc Mélenchon ne fait pas un projet pour la France, cible le ministre, tout en précisant que quoi qu'il arrive, le texte de réforme du Code du travail contesté ne changerait pas. 150 000 personnes, selon les chiffres donnés par la France Insoumise, ont participé participé au rassemblement hier place de la République. Demain, les syndicats de transporteurs routiers CGT et FO appellent à bloquer la circulation à travers tout le pays. Il est 12h39 sur France Culture. Nabila Hamel, vous êtes là pour la face cachée du globe. Bonjour Nabila.
Bonjour Adrien. Le républicain John McCain a une nouvelle fois défié son parti et le président Donald Trump. Il a annoncé vendredi qu'il votera contre la dernière mouture du projet d'abrogation partielle de la loi Obama sur la couverture maladie. Les sénateurs républicains espèrent faire voter ce texte dans les prochains jours, mais il suffirait d'une seule autre voix républicaine hostile à ce texte pour le torpiller et signer l'échec de la majorité à réformer l'Obamacare. Si la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a assuré qu'elle était prête à organiser le retour des Rohingyas, réfugiés au Bangladesh, la première ministre du Bangladesh a, elle, réclamé vendredi des zones sûres et supervisées par l'ONU en Birmanie pour permettre concrètement ce retour. Elle avait auparavant dénoncé la pose de mines le long de la frontière entre les deux pays. Une opposante syrienne, Aroubé Barakat, 60 ans, et sa fille Hala, journaliste de 22 ans, ont été retrouvées mortes jeudi, vraisemblablement assassinées dans leur appartement d'Istanbul. Aroubé Barakat s'était opposée depuis les années 80 au régime syrien, incarné à l'époque par le père de Bachar el-Assad. Michel Temer a eu une semaine difficile avec une Cour suprême qui a bien validé l'enquête du procureur général sur les accusations d'obstruction à la justice et de participation à une organisation criminelle. Mais aussi volumineux soit-il, le dossier qui le concerne retournera à la Chambre des députés où, à Nvinia, il compte toujours de nombreux soutiens.
Plus personne au Brésil ne croit que Michel Temer sera un jour destitué, comme l'ancienne présidente Dilma Rousseff l'a été en août 2016. Le vote de la Cour suprême, retransmis en direct mercredi dernier sur les chaînes de télévision, n'a guère passionné le pays. Aucune réaction dans la rue non plus après cette décision. Il faut dire que le président, accusé aussi de corruption passive par la même Cour suprême en juin dernier, a été sauvé par les députés au mois d'août. Pour s'assurer de leur soutien, Michel Temer a fait de nombreux cadeaux à ses alliés, notamment ceux qui défendent l'agrobusiness. Ils demandaient une exploitation plus facile des réserves naturelles, ils l'ont obtenue. La grande victime de ce procès a ainsi été l'environnement, sacrifié pour s'assurer un nombre de votes suffisant. Ce nouveau procès, cette fois pour obstruction à la justice et participation à une organisation criminelle, ne semble pas menacer réellement le président. Vendredi, la lecture de l'acte d'accusation a été reportée. Seuls deux députés sur 513 étaient présents, un quorum évidemment insuffisant. Les accusations contre le président et sa garde rapprochée sont pourtant des plus graves. Le procureur les accuse d'avoir détourné 160 millions d'euros des coffres de l'entreprise publique pétrolière Petrobras. Une somme qui a ensuite été utilisée pour les campagnes électorales de leur parti politique, le PMDB, mais aussi pour leur fortune personnelle. Au début de ce mois, la police a ainsi découvert dans une garçonnière, louée par un proche et un ancien ministre de Michel Temer, la coquette somme de 15 millions d'euros cachés dans des valises.
Elle s'appelle Frida Sofia. Elle est en vie, mais toujours ensevelie sous les décombres d'une école de Mexico. Elle a bougé les doigts. Elle a dit qu'elle était très fatiguée. Elle est sous une table. Elle a pu boire de l'eau grâce à un tuyau. C'est devenu l'histoire à suivre du tremblement de terre qui a frappé le Mexique la semaine dernière. Seulement, cette adolescente n'a jamais existé. Comment expliquer ce phénomène? Écoutez Virginie Spies, maître de conférence à l'Université d'Avignon et analyste des médias.
La première chose, c'est qu'au départ, on ne sait pas comment ça démarre. Est-ce que c'est une intention de mensonge, en fait, ou est-ce que c'est la logique de la rumeur? C'est-à-dire quelqu'un dit quelque chose qui est amplifié par quelqu'un d'autre, et tout d'un coup, la rumeur prend forme. Ça devient un récit, ça devient un récit médiatique. Ensuite, pourquoi ça fonctionne? Ça fonctionne parce que souvent, ces drames, du point de vue médiatique, ont besoin d'une forme d'incarnation. Dire 25 enfants dans une école, c'est très différent que de dire une petite fille et de lui donner un prénom, un nom, et du coup, il y a une forme d'attachement, d'incarnation, d'anthropomorphisation, on pourrait dire, et ça rend le problème plus humain, entre guillemets, en tout cas du point de vue médiatique, et c'est sûrement l'une des raisons pour lesquelles, tout d'un coup, ça prend forme. Ça permet aux médias de rester en haleine, et on sait bien que les histoires, les récits sont plus forts quand ils sont incarnés humainement, et que finalement, à partir de rien, on finit par créer une histoire, et comme les médias se regardent beaucoup les uns les autres au fur et à mesure, on finit par donner vie à quelque chose qui n'existe pas. Au départ, il y a peut-être un indice, et finalement, l'indice prend la forme d'une réalité. Or, on sait bien que l'indice n'est pas la réalité. Jusqu'à l'État, jusqu'aux autorités, il y a eu croyance dans cette rumeur. Et c'est là, certainement, le principal problème. C'est-à-dire, bon, les médias rapportent des choses qu'on leur dit. Si, en plus, ce sont les autorités qui disent des choses, les médias, naturellement, les croient. Surtout quand on a du mal, pour le coup, là, à vérifier l'authenticité de ces informations, bien sûr. Donc là, il y a, en effet, une enquête à mener sur comment même les autorités ont fini par croire à quelque chose qui n'avait aucune valeur et aucune preuve.
Les pubs, restaurants et autres pizzerias de Londres commencent à ressentir le départ de leurs salariés européens avant même le Brexit. De quoi angoisser un secteur très dépendant de la main-d'œuvre étrangère. Les Européens, notamment d'Europe centrale, quittant le Royaume-Uni, sont de plus en plus nombreux, 33 000 de plus entre avril 2016 et mars 2017. Depuis le vote pour le Brexit, ils sont surtout échaudés par la chute de la livre face à l'euro, une dépréciation qui érode leur pouvoir d'achat en devises européennes et qui s'est traduite pour eux par une baisse de salaire. À dimanche prochain.
À dimanche prochain, Nabila. Le temps cet après-midi, du soleil sur toute la France, sauf sur la pointe bretonne et la Normandie, où la pluie et les nuages seront toujours présents. Côté température, les maximales varieront entre 17 et 28 degrés.